Merci Lisa, docteur Lisa Hous, de m'avoir fait l'honneur d'intervenir pour parler de ce sujet très délicat qui représente la prise en charge de ces patients, notamment de ces patients en institution résidentielle, thérapeutique. Et la spécificité de mes interventions, de mon intervention aujourd'hui, c'est que je travaille dans une clinique soins-études, c'est ces cliniques de la Fondation Santé des étudiants de France. Donc on pourrait même dire qu'il y a des prises en charge, des triples prises en charge, puisqu'il faut s'occuper médicalement de ces jeunes, ça tout le monde le reconnaît. Il faut s'en occuper sur le plan psychique également, tout le monde le reconnaît aussi. Mais la scolarité, c'est un versant de la prise en charge qui est peut-être moins bien connu parce que soit ces jeunes sont absentéistes et les profs s'en plaignent d'ailleurs, ils sont souvent d'ailleurs taxés un peu de paresseux parce qu'ils sont compétents, vous l'avez dit tout à l'heure dans la recherche, donc on se demande d'où vient ce problème d'absentéisme. Et quand par contre on peut les remettre en scolarité dans ce genre d'établissement, on peut observer des tas de choses tout à fait passionnantes, cliniquement parlant, et quand on les a des mois et des mois, donc c'est le cas de ces patients qu'on garde en général à peu près 6 mois en moyenne, on a d'autant plus de matériel clinique et d'observation pour savoir ce qui se passe entre le service où ils sont hospitalisés, leur chambre notamment, et l'infirmerie, et la scolarité. Donc il peut se passer beaucoup de choses entre ces différents espaces. Alors, je travaille depuis 2006 sur cette unité de double prise en charge qui avait été créée par le docteur Anne-Claire de Crouy, qui ne travaille plus dans l'établissement. Et c'est le docteur Amélie Brémard, médecin de rééducation, qui a pris le relais et avec laquelle je travaille de façon extrêmement serrée, puisqu'on a des liens de travail professionnels pluri-quotidiens du fait de la contenance institutionnelle qu'il faut pouvoir apporter à ces jeunes. Alors, il y a 14 lits. Il faut savoir qu'avec Necker, on a des habitudes de travail depuis un certain temps, puisque Necker nous adresse des adolescents défenestrés. Et on avait ouvert cette unité pour accueillir ces adolescents défenestrés qui avaient besoin autant de soins de rééducation que de soins psychiatriques et psychologiques. Et puis on a vu débarquer depuis quelques années des douloureux chroniques. Alors il n'y a pas que Necker qui nous les adresse, il y a aussi les centres douleurs de Paris et on a eu l'occasion de rencontrer toutes ces équipes. Et évidemment, je parlerai des conditions d'adressage qui sont, je trouve, tout à fait remarquables et qui permettent d'ailleurs la réussite, à mon avis, en grande partie du projet dans notre établissement. Alors, l'indication, c'est dans cette unité une atteinte d'une ou plusieurs fonctions motrices. Et ce qui est assez remarquable également, c'est que c'est le retentissement global et les conséquences de cette altération motrice, sans déficience a priori vraiment tout à fait évidente, hein, qui fait qu'on va faire un travail de rééducation fonctionnelle. Alors, les fonctions motrices atteintes, c'est l'écriture, ces jeunes qui parfois ne peuvent pas serrer la main quand on les voit la première fois, c'est la marche, ou des jeunes qui ne peuvent pas être assis, donc vous imaginez les conditions de scolarité. Bon. Et le travail de rééducation va être essentiellement lié au déconditionnement à l'effort, aux conséquences de la déscolarisation, donc l'atrophie musculaire, l'absence d'activité physique, etc. Mais ce n'est pas forcément lié à un problème extrêmement pointu qu'il faudrait résoudre parce que tel jeune aurait une lésion neurologique, évidemment, ou orthopédique complexe. Donc, l'interdisciplinarité qui est, comme l'a écrit Bernard Goltz d'ailleurs, ni un luxe, ni une évidence, et je ne peux que souscrire à ces deux termes, implique continuité dans les soins entre les deux spécialités tout au long de la prise en charge, contenance institutionnelle, avec des adolescents hospitalisés à temps complet, c'est une évidence, et puis réponse originale, parce que je pense que quand on réfléchit à ces problématiques du côté de la psychiatrie, eh bien on peut donner quelques outils de réflexion, mais c'est tout à fait insuffisant. De même qu'à mon avis, quand on est pédiatre ou médecin de rééducation ou médecin de la douleur, on ne peut pas penser tout seul ces pathologies extrêmement complexes. Or, quand on est plusieurs à penser ça, on est plus fort, à mon avis, et on aboutit à de meilleurs résultats en termes de résultats thérapeutiques, mais aussi en termes de réflexion psychopathologique, physiologique, neurophysiologique, etc. Alors, la visite de préadmission est un moment extrêmement important. Encore une fois, la qualité du travail de préparation en amont est essentiel, et ça, c'est grâce aux habitudes de travail qu'on a avec les centres douleurs, avec les services de pédiatrie, qui nous font confiance, je pense, hein, puisqu'ils nous adressent des patients, et cette confiance se mesure à chaque fois qu'on voit des nouveaux patients. On fait ce qu'on appelle des entretiens conjoints de préadmission et jusqu'à la fin de l'hospitalisation, tous les entretiens familiaux se font de cette façon. Et moi, j'ai appris à roder un peu mon discours auprès des familles, parce que d'abord, je ne connaissais pas du tout cette pathologie. Je pense que la plupart des psychiatres ne connaissent pas ces pathologies très mixtes, si vous voulez, dans la présentation. Et j'ai appris, au bout de 10 ans, à mieux cerner un peu les problématiques. Mais évidemment, je suis loin de tout connaître sur ces problèmes qui sont extrêmement difficiles à traiter, je trouve. Et du coup, ce que j'ai appris, eh bien, ce qu'on a appris sur notre cohorte, on a dû hospitaliser 60 d'adolescents mineurs présentant des troubles extrêmement graves, avec impotence, etc., des scolarisations, tout ce que vous avez dit toute la journée. Eh bien, le fait de pouvoir dire qu'on a un peu cette expérience de l'évolution de ces jeunes dans le service, quand on les a hospitalisés, a un effet, je crois, de réassurance très important. Et alors, ceux qui s'y retrouvent le plus, c'est les adolescents. C'est d'abord les adolescents qui se reconnaissent dans ce qu'on peut dire comme projection sur l'avenir de la pathologie pendant l'hospitalisation. Et dans un second temps, quand l'adolescent se sentira bien dans le centre, ce sont les parents qui pourront adhérer en général à ce qu'on a dit au départ. Et c'est important dès le départ de souligner la dimension psychopathologique. On le souligne, mais on n'invalide pas la théorie des parents. On la respecte infiniment parce qu'elle est déterminante. Si on ne respecte pas la théorie des parents, c'est le clash assuré, si vous voulez, surtout quand on a des parents qui s'agrippent à des diagnostics extrêmement organicistes, si vous voulez. Alors, on fait la présentation de l'unité, on fait visiter l'unité, il y a également une infirmière ou une aide-soignante qui assiste à ces entretiens de préadmission pour permettre ensuite la transition lorsque le jour de l'arrivée du patient arrive. Alors, les indications, globalement, ce sont les mauvaises évolutions sur le plan fonctionnel et social de la prise en charge lorsqu'elle est ambulatoire. C'est la désorganisation et l'épuisement familial, c'est-à-dire que la vie à la maison finit par tourner uniquement autour du symptôme médical, et ça épuise totalement les familles, en plus de l'adolescent qui, lui, est surtout inquiet de savoir ce qu'il a. Les angoisses, les premières angoisses qu'il nous livre, c'est « je ne sais pas ce que j'ai ». Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Sinon, tout va bien, à part la douleur. Hein, c'est tout à fait frappant. Bon. Alors, ensuite, on a aussi des indications lorsqu'il y a un risque iatrogène et lorsqu'il y a un risque d'escalade médicale. Alors, on a eu des risques d'intervention, par exemple, d'anesthésie intrathécale. Hein, ou de morphinique à très haute dose. Alors, quand il y a un risque iatrogène, ça peut être, à mon avis, une bonne indication d'hospitalisation. Et puis, quand il y a un risque d'emprise aussi entre parents, enfants et une partie du corps médical autour du symptôme douloureux. Et puis, on mesure la motivation de l'enfant et de ses parents. Mais en général, encore une fois, quand c'est très bien préparé, et que c'est le cas vraiment la plupart du temps, eh bien, la motivation est là. L'action du médecin de MPR, au fond, l'idée, c'est de ne pas se poser comme expert, surtout pas les experts, ceux qui font les diagnostics rares, ils sont à l'extérieur. D'ailleurs, le médecin MPR, en général, communique très régulièrement avec les adresseurs, et quand il y a des soucis de diagnostic plus compliqués, eh bien, il y a également un lien qui est constant. Mais elle a aussi le souci de mettre des limites aux demandes d'examen complémentaire par les parents qui peuvent également en profiter de cette hospitalisation pour aller refaire un petit nomadisme médical, aller redemander des consultations auprès de gens soi-disant experts de telle ou telle pathologie rarissime. Et là, on a aussi, nous, à mettre des limites quand il faut surtout rester très, au fond, très solide entre le médecin adresseur et notre prise en charge. Alors, il y a des prescriptions, bien sûr, de kiné, de balnéo, psychomotricité, activité physique adaptée, massage, etc. On va plutôt vers une décroissance des traitements, vers un sevrage médicamenteux, parce qu'on a quand même des risques de pharmacodépendance. Et on accompagne, et ça c'est tout l'art du médecin MPR, c'est d'accompagner certains moments de régression fonctionnelle par un appareillage, mais cela dit, avec beaucoup de parcimonie, parce que si on va trop dans le sens de la régression, ça ne va pas. Si on ne va pas assez dans le sens, le patient se plaint de ne pas être écouté, etc. Alors, je le dis aussi ici, c'est-à-dire qu'il y a un étayage par l'entretien médical, je ne parle pas de l'entretien psychologique, mais je crois qu'on a tous des fonctions psychologiques quand on travaille en institution. L'important, c'est de savoir coordonner les actions des uns et des autres, c'est ça la difficulté. Mais ce qui nous font sortir de notre rôle, évidemment, hein, comme vous pouvez l'imaginer, à tout moment. Donc, à moi, on parle de la cheville, et puis au docteur Brémard, on parle éventuellement de son angoisse pour aller à l'école. Donc, ça, c'est un de grands classiques. Et donc, il faut, bien sûr, essayer de réintégrer tout ça. À mon avis, ces troubles manifestent, en plus de ce qui a été dit, quand même un défaut d'intégration psychique, de toutes ces transformations cognitives, affectives, liées en grande partie au processus d'adolescence, bien sûr. Alors voilà, donc si on est disponible, ça va. Si on ne les voit pas assez vite, il y a un vécu abandonnique. Et donc, ils montent les enchères, il faut appeler le médecin de garde, ils appellent leurs parents, etc. Ça prend des tournures catastrophiques. Donc effectivement, il faut une disponibilité. C'est pour ça que quand je parle d'interdisciplinarité, ça a des conséquences extrêmement concrètes, matérielles, d'organisation. Il faut que chaque spécialité puisse prendre le relais régulièrement. Par exemple, on peut être amené à prendre des décisions sur les week-ends de permission quand l'autre médecin n'est pas là, ça veut dire, ça nécessite un minimum de confiance entre nous, qui s'acquiert par l'expérience et par la bienveillance mutuelle, bien sûr. Mais ça, c'est pas un vain mot, c'est-à-dire que ça s'expérimente. C'est pas quelque chose qui existe, qu'on décrète comme ça, et puis voilà, ça va marcher, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, les adolescents nous le montrent, si ça ne marche pas, c'est bien qu'on a dysfonctionné entre nous. Alors, les actions du pédopsychiatre, eh bien écoutez, moi je m'intéresse dans un premier temps toujours aux conséquences de la pathologie, j'essaye de mettre de côté l'étiologie, les causes, les facteurs, et ça c'est dès le premier entretien de préadmission, je m'intéresse donc beaucoup plus aux conséquences de la dépendance physique vis-à-vis de l'environnement, et on essaye de travailler là-dessus. Et de même que pourquoi la douleur, moi j'ai plutôt envie de dire comment la douleur, comment ça se fait, par quel mécanisme. À mon avis, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser cette approche-là. Alors, je suis amené à prescrire des psychotropes, en deux mots. Je pense que certains inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, comme le Prozac, peuvent fonctionner quand il y a... je dirais une impotence très importante, quand il y a un retentissement physique très important de la dimension psychologique. Et puis, on est amené à prescrire, autre versant, certains antipsychotiques à petite dose, quand on flaire quand même des troubles graves de la personnalité, ce qui n'est pas rare dans notre population accueillie, parce que je pense qu'on a un biais de sélection, on nous adresse quand même les patients les plus rebelles aux thérapeutiques ambulatoires. Alors, il faut travailler beaucoup sur les enjeux narcissiques de la rescolarisation et évidemment par rapport aux études, comme on est scolarité, soins, études, eh bien l'idée c'est évidemment d'amener une décondensation du symptôme douloureux, c'est-à-dire que à partir des événements corporels qu'ont vécu ces patients, eh bien, on va essayer de les faire travailler sur des événements scolaires qui sont beaucoup plus normaux, hein. C'est-à-dire c'est difficile d'aller à l'école, ça fait peur, on a peur des résultats, on est perfectionniste, donc qu'est-ce qui va se passer si on a une mauvaise note, etc. Et je crois que cette décondensation du symptôme est absolument fondamentale. Le modèle de l'anorexie mentale me parle quand même quand on s'occupe de ces douloureux chroniques, parce qu'il y a un symptôme très somatique qu'il faut décondenser, mais qui est l'affaire de tous, aussi bien du médecin somaticien que du psychiste. Voilà. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que quand ils n'arrivent pas à aller à l'école, malgré l'aménagement scolaire très protégé, eh bien, ça parle vraiment aux parents, là, parce que les parents se disent avant, bon, c'est médical, nanana. Et nous, on peut apporter un autre éclairage, on dit, voyez, même ici, c'est compliqué d'aller à l'école, donc c'est bien qu'il y ait un rapport anxieux à l'école. Et là, ça nous permet aussi de travailler sur d'autres ouvertures, d'autres voies. Alors, là, je marquais relance du processus narratif interne de l'adolescent. Ça, j'ai envie de le dire. C'est-à-dire que, petit à petit, au début, bon, il s'appelle 10 fois par jour, bon, avec le portable, avec le téléphone fixe. Et puis, petit à petit, quand ils vont mieux, les adolescents ne répondent pas toujours au téléphone quand les parents appellent. Ah, bon. Et là, ça met les parents dans une certaine... une perplexité anxieuse, si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Et c'est à ce moment-là, je crois, qu'on peut introduire la question de la narrativité, peut-être dont parlait tout à l'heure le docteur Golds, même s'il l'a évoqué très, très rapidement. Je pense que c'est l'occasion pour les parents d'imaginer un peu ce qu'est la vie de l'adolescent, mais sans le savoir vraiment, puisque ça ne se passe pas sous leur regard. Et puis alors, donc, ils imaginent des choses, L'adolescent transgresse puisqu'il ne répond pas au téléphone, et l'adolescent aussi peut faire un travail de narration quand il appelle ses parents à la fin de la journée. Et je crois que tout ça concourt à rementaliser ces adolescents un peu. Voilà. Alors, je suis passé très vite avant, mais il faut savoir que Mélanie Margot, qui est psychologue dans le service, reçoit ces jeunes en individuel, sans soignant, alors que moi, je les reçois toujours avec une infirmière ou une aide-soignante, voire une éducatrice ou un éducateur, et qu'on fait du bifocal ou du plurifocal pour que les espaces thérapeutiques soient différenciés, bien entendu. Elle a des approches individuelles, mais elle peut aussi recevoir ces jeunes, parfois en groupe, en atelier. Les ateliers, les groupes de parole à l'occasion d'une médiation peuvent être parfois beaucoup plus révélateurs des problématiques que ce que peuvent en dire les patients en individuel. Autre chose, alors, en termes d'hypothèses psychopathologiques, effectivement, on peut faire des liens avec la fréquence des troubles de l'humeur, le refus anxieux scolaire, donc on est bien placé pour le savoir puisque moi je m'occupe de deux autres unités de pédopsychiatrie avec des lits et on essaie de faire des liens avec les réactions de ces jeunes qui n'ont pas de douleur chronique et des jeunes qui viennent uniquement pour un refus anxieux scolaire. Il y a quand même beaucoup de points communs. Mais c'est une comorbidité. Hein. Je ne dis pas que tous les douloureux chroniques ont un refus anxieux scolaire, mais on ne peut pas ne pas se poser la question. Un lien que je fais aussi, c'est avec les conduites de dépendance en général à l'adolescence. Et j'inclus par exemple la question de l'anorexie mentale. C'est d'abord parce qu'il y a une dépendance aux symptômes, il y a un risque de pharmacodépendance, il y a une captation des investissements autour de la douleur, il y a des attaques du corps parce que beaucoup de ces adolescents négligent leur corps et se font mal à répétition. C'est pas forcément parce qu'ils ont des tissus conjonctifs très lâches, c'est parce qu'ils descendent les escaliers, ils font pas attention et puis ils se foulent la cheville. Hein, bon. Donc ça c'est une évidence. Il y a aussi une dimension exhibitionniste. C'est du caché-montré en permanence avec les douloureux chroniques. Puis alors, il y a des surenchères entre patients. Parfois, c'est très spectaculaire. C'est à celui qui attirera le plus l'attention sur lui. Mais effectivement, il ne faut surtout pas considérer que c'est hystérique. Pour moi, ça ne veut rien dire dans ce contexte. Et puis, c'est le caractère transnosographique. Encore une fois, il y a des jeunes qui ont vraiment une fragilité de la personnalité extrêmement problématique, qu'il faudra soigner longtemps, plusieurs années en institution. Et un jour, le symptôme douloureux disparaîtra. Mais il faudra encore des soins derrière de psychiatrie plus ou moins lourds, parce que après la douleur chronique, on voit éventuellement apparaître des formes de phobie sociale beaucoup plus évidentes, des dépressions récurrentes, des risques de tentatives de suicide, etc. Donc c'est une population de toute façon fragile. Et puis enfin, dernière hypothèse que je fais ici, c'est que je m'interroge quand même beaucoup sur l'état psychologique de nombreux de ces parents. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que depuis 2 ans, toutes les nouvelles situations, il y avait au moins un des parents qui avait été malade, voire très malade, pas forcément pendant, pas au moment de l'admission forcément, mais à un moment donné de l'enfance de ces patients. Et moi, je fais quand même l'hypothèse que dans certaines situations, il y a eu un retrait relationnel long de la mère vis-à-vis de l'enfant, et que ça a pu engager des choses assez problématiques. Voilà. C'est pas moi qui le fantasme, c'est les adolescents qui finissent par le dire, parfois quand les parents ne veulent pas le dire. Hein, encore une fois, dans un milieu sécure, l'adolescent commence à parler de ces choses-là, et quand l'adolescent peut le dire, les parents parfois peuvent le dire dans un second temps. Et d'où j'ai beaucoup aimé l'intervention sur l'attachement, parce que moi, ça me fait penser. Je pense qu'en institution thérapeutique, la théorie de l'attachement est assez utile, parce qu'on travaille que sur les liens, finalement. Et les infirmiers passent une grande partie de leur temps à scruter ce qui se passe entre l'enfant et ses parents, soit par le téléphone, soit pendant les visites, les retours de permission. Donc, c'est une clinique extrêmement riche. Et donc, une hypothèse que je fais, parce que c'est ce que je vois, moi, de plus en plus, c'est des enfants qui auraient été un peu contrôlant sur l'environnement. Vous voyez, thérapeute contrôlant, à l'inverse des enfants qui sont contrôlants, punitifs. Ceux-là, la plupart du temps, ils sont soignants. On en a une actuellement qui est punitive, qui est insupportable avec sa mère. D'une violence, mais sauf que la mère, c'est un glaçon. Effectivement. Et je pense que ça n'a pas commencé depuis qu'elle est adolescente. Voilà. Donc bon, c'est en miroir, si vous voulez. Voyez. Bon. Mais la plupart du temps, on a des parents qui sont bienveillants, en tout cas en apparence, ils donnent des soins, ils veulent donner des soins, mais ils ont pu, avoir un épisode très compliqué dans l'enfance des patients. Alors, ce que je voulais dire aussi, ça, c'est les implications thérapeutiques. C'est que, vous savez que dans la théorie de l'attachement, au début de la vie, tout passe par le corps. C'est le corps à corps, le corps de l'enfant sur le corps de la mère qui sécurise le plus l'enfant. Ce n'est pas le langage, c'est la proximité physique. Et puis plus tard, ça sera le langage. Eh bien, moi, je me demande, c'est une hypothèse, si vous voulez, si le fait qu'on prenne en charge aussi bien dans les centres de douleur, la douleur de ces enfants n'est pas, ne correspond pas, ne donne pas l'occasion à ces enfants de renverser les rôles via le corps médical. C'est-à-dire que on s'occupe d'eux, ils savent comment exprimer leur souffrance, on s'occupe d'eux, et de ce fait, ils ont besoin de cet étayage qui passe essentiellement par le corps. C'est-à-dire qu'enfin, ils peuvent renverser les rôles. Alors, c'est peut-être très inconscient, tout ça, si vous voulez. Mais je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. Bon. Et notre double prise en charge, eh bien, elle tend, au fond, par l'intermédiaire de la dépendance physique, à leur faire prendre conscience de leur dépendance psychique, grâce aux progrès qu'ils vont faire et qu'ils vont réaliser, aux progrès physiques qu'ils vont pouvoir faire. Ils rentrent en fauteuil roulant, petit à petit, ils sont en béquille, et puis ils marchent sans béquille à la fin du séjour, dans le meilleur des cas, hein, et ils réalisent que leurs progrès viennent de lui. Et donc, parallèlement, il y a cette mentalisation, grâce à cette mise à distance du milieu familial, ça ne suffit pas de mettre à distance, parce qu'il faut que ça soit travaillé, hein, avec l'équipe, avec toutes les occasions de rencontre et d'identification multiple qu'il y a dans l'institution, mais je pense que tous ces repères, moi, m'aident à penser les choses. Philippe Jamais parle de médiation fonctionnelle forte, c'est-à-dire comment on utilise les médiations corporelles pour aider à la mentalisation. Le travail soignant est difficile, extrêmement bouffant, très chronophage, très déconcertant. Ils ne sont pas simulateurs. Hein. On pourrait dire qu'ils sont sur-simulateurs. Au départ, ce n'est pas des simulateurs, mais ils exagèrent parfois leurs symptômes devant l'autre, devant le soignant. Donc ça nécessite une cohésion d'équipe redoutable, une disponibilité suffisante. Attention à l'épuisement professionnel, c'est un risque, évidemment. Hein. Et il faut alterner, hein, d'après ce que nous disent les soignants au quotidien, des attitudes maternantes et des attitudes de fermeté, gants de velours dans une main de fer, excusez-moi. Voilà, alors, au fond, mais ça doit reposer évidemment sur la fiabilité du couple MPR-psychiatrie. Bon. Écoutez, le travail en kiné et en psychomotrie rejoint beaucoup d'observations que je viens de faire. Et au fond, l'essai professionnel montre à quel point il faut utiliser les techniques non conventionnelles pour les soigner. Les médiations ne sont pas conventionnelles. Les échelles type EVA, par exemple, ne servent pas à grand-chose au quotidien. Et par contre, kiné et psychomote montrent à quel point le corps, à un moment donné, est identitaire. C'est-à-dire, enfin, la douleur est identitaire. Devient identitaire et que si on enlève la douleur, on ne sait plus qui on est. Différentes évolutions, et je terminerai par là. Premier cas de figure le plus sombre. Mauvaise évolution physique, mauvaise évolution psychique, système familial hyper rigide, conviction sur une origine strictement organique des symptômes, revendication d'une réparation éventuellement quand il y a eu un geste chirurgical, un accident, etc. Et ça, c'est de moins bon pronostic parce qu'il n'y a pas de demande d'orientation vers éventuellement des spécialistes psychiatres. Deuxième et troisième évolution plus favorable. Deuxième évolution, c'est qu'il y a une évolution physique variable, mais il y a une prise de conscience de la problématique psychique. Et donc, on peut renforcer l'aide psychiatrique et psychologique. Et donc, les parents, dans ce cas de figure, acceptent plus facilement cette orientation, à condition qu'on prenne le temps et qu'on soit pédagogue. Et puis, dernière évolution, c'est l'évolution favorable parallèle sur tous les plans. Les cas qui ont eu cette évolution ont évolué en même temps. Hein, et ça, je crois que c'est important. Ce n'est pas d'abord physique, puis psy, ou d'abord psy et physique, c'est en même temps qu'on a les meilleures évolutions. Et les facteurs de meilleur pronostic, évidemment, c'est quand le système familial s'est mis au travail, c'est quand on a donné des soins suffisamment longtemps, c'est quand, évidemment, il y a une bonne articulation avec les suivis ambulatoires, limite de la double prise en charge, c'est hospitalisation de source, ça marche moins bien. C'est quand il y a des troubles graves de la personnalité, évidemment, hein, parce que là, c'est le pronostic psy qui est en jeu. C'est quand il y a un refus d'orientation en pédopsie, mais là, je me répète. Enfin, voilà, je vous présente les noms de l'équipe Parce que c'est des personnes, c'est très chronophage, ça prend du temps, il faut s'en occuper, ça vaut la peine. Mais je voulais quand même citer le nom de toutes les personnes qui font partie de cette équipe. Je vous remercie de votre attention.